Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur les 100.7 de Radio Asso et soyez les bienvenus dans cette émission spéciale réalisée par les élèves de BTS du cours d'éducation socioculturelle du lycée agricole Capou de Montauban. Au programme de cette émission, agriculture fruitière, matériel agricole, alimentation et même un quiz spécial nature. Je sens que vous trépignez d'impatience à l'idée de découvrir tout ça, alors je ne vous fais pas plus attendre et nous commençons tout de suite avec un micro-trottoir réalisé au sein même du lycée sur le thème du sucre qui occupe aujourd'hui une grande place dans notre régime alimentaire.
Savez-vous qu'un soda Coca-Cola en bouteille de 50 centilitres contient 11 morceaux de sucre et qu'en pensez-vous?
Alors, je pense que je le savais un petit peu parce que déjà rien qu'au goût, c'est très sucré. Et après, ce que j'en pense, c'est que c'est, j'imagine, néfaste pour ceux qui en boivent beaucoup. Moi, j'en bois pas beaucoup. Mais pour ceux qui en boivent beaucoup, je pense qu'ils n'ont pas conscience qu'il y a énormément de sucre dans une bouteille de Coca. Et du coup, je pense que c'est pas très bon pour leur santé.
Alors, je pensais qu'il y en avait beaucoup, mais de là à ce qu'il y ait autant de morceaux de sucre, je ne pensais pas. Donc, c'est vrai que j'avais quelques a priori avant sur la quantité, mais de là à ce qu'il y ait 11 morceaux de sucre, non, je ne pensais pas.
Oui, j'en avais une certaine idée, je trouve que c'est beaucoup, et c'est pour ça je pense qu'on devrait réduire au quotidien l'utilisation de ces produits, même si de temps en temps, je pense pas que ça fasse énormément de mal.
Alors j'étais au courant que effectivement dans le Coca il y avait un nombre élevé de morceaux de sucre, je pense que c'est très mauvais pour la santé, c'est pour ça que je bois du Coca Light, qui est aussi mauvais, puisque à la place du sucre, il y a de l'aspartame.
Oui, je trouve ça énorme, juste pour une canette.
Non, j'avais aucune idée, et puis je trouve que c'est quand même assez élevé, ce taux de sucre, par rapport à la quantité de boissons.
Oui, on l'avait vu en cuisine, et c'est beaucoup trop de sucre, comme a dit Sacha, pour le peu de boissons qu'il y a en soi dans la canette.
J'en pense que c'est pas bon pour la santé, 50 centilitres de coca et 11 sucres pour la santé, et après je sais pas.
Alors je savais qu'il y avait beaucoup de sucre, mais je pensais pas autant, et je suis un peu choqué de la quantité. Je trouve que c'est quand même assez élevé pour une bouteille de 57 litres.
Oui, alors je savais que le Coca-Cola, c'était quelque chose comme à peu près 20-25 sucres au litre. Après, je trouve que c'est beaucoup. Hein. Après, il y a d'autres boissons comme le Coca Light, mais après, il y a d'autres problèmes comme l'aspartame ou le Coca sans sucre. Voilà. Oui, mais je savais.
Pensez-vous que les produits sans sucre sont une bonne alternative et pourquoi?
Ouais, je crois que ça dépend des gens. Moi, j'adore le sucre. Je pourrais pas m'en passer. De là à dire que je serais addict ou accro au sucre, je ne crois pas. Mais je pense qu'il y a des gens qui doivent faire des régimes particuliers. Pour eux, ça doit leur servir à quelque chose. Moi, franchement, je fais attention à ma consommation de sucre. Donc, j'ai pas besoin de réduire.
Alors, pour les gros consommateurs de Coca-Cola, je pense que c'est une bonne alternative. Malgré les édulcorants, tout ça, qui, pour moi, sont mauvais pour la santé quand même. Sinon, oui, ça peut être une bonne alternative pour ce genre de produit là.
Je sais pas du tout, je me suis jamais posé la question, et sachant qu'il y a du sucre dans énormément de produits, je sais pas du tout quelle utilisation pour en avoir.
Bah oui, ça réduit le taux de sucre pour les gens qui ont des maladies ou les enfants, c'est bon.
Les produits sans sucre sont une bonne alternative parce que le sucre peut devenir une addiction. Au niveau gustatif, on s'habitue d'ailleurs comme le sel à avoir des aliments de plus en plus sucrés et salés, et dans de nombreux aliments, d'ailleurs dans tous les aliments quasiment industriels, il y a un ajout, un surplus de sucre exprès.
Non, pas forcément, parce qu'il y a du sucre partout, c'est du sucre caché.
Oui, car ça empêche des addictions au sucre qui peuvent mener au diabète et à ce risque de maladie.
Oui, parce que ça permet déjà d'avoir une alimentation plus équilibrée. Et ça enlève les risques de maladies comme le diabète.
Oui, ça diminue les calories et ça donne aussi un peu plus d'énergie.
Et voilà. Alors non, car il y a certains produits qui sont mis à la place du sucre, qui sont plus dangereux pour la santé ou autre, donc non.
Ça dépend quel sucre, parce que maintenant il y a le stevia, c'est un sucre naturel. Il y a le sans sucre, c'est souvent de acésulfame NK ou l'aspartame. C'est c'est chimique, hein, donc ça crée dans l'organisme le besoin en sucre. Ça sécrète de l'insuline apparemment, à ce que j'en sais. Mais après, je pense pas que ça soit à long terme bien pour l'organisme.
Comment faites-vous pour réduire votre consommation de sucre?
Moi, je n'ai aucune volonté, donc déjà, je le ferai pas. Si vraiment j'étais amené à le faire, je crois que je ferais appel à un nutritionniste ou quelqu'un comme ça, parce que moi, j'adore le sucre. C'est trop compliqué de s'en séparer.
Alors moi, j'adore le sucre, donc c'est vrai que ça va être compliqué de réduire ma consommation, même si voilà, je n'ai pas de soucis de santé dus au sucre.
Faire plus attention aux produits qu'on consomme, notamment les produits très transformés, et réduire les boissons, les confiseries et les produits de ce genre-là.
Je ferai attention à ce qu'il y a dans les produits.
Comment fais-je pour réduire ma consommation de sucre? J'essaye de prendre soit de l'aspartame ou soit du stevia. Hein, stevia, c'est plus naturel. Ou je le remplace par du miel, mais très honnêtement, je n'arrive pas à réduire le sucre car je suis, comme je vous le disais précédemment, assez dépendant au sucré. Donc le sucre, j'en ai besoin, ce qui est une mauvaise idée.
Arrêtez d'acheter des gâteaux.
Aller à la salle et pas acheter et acheter moins de gâteaux.
Déjà, plus manger de légumes, etc. Moins manger de produits très sucrés et faire plus de sport.
Faire plus de sport, manger des légumes, avoir une alimentation régulière.
Alors, pour réduire ma consommation de sucre, je pense faire attention à mon alimentation et le sport. Voilà.
C'est assez dur de réduire la consommation de sucre. Je pense que je trouverai des alternatives, comme je vous ai parlé, la stevia ou le sucre de coco. Il y a des sucres non raffinés aussi, le sucre complet, qui sont aussi bons pour l'organisme.
Après avoir recueilli les témoignages du peuple, les élèves ont eu l'occasion d'interviewer Stéphanie Boissière, diététicienne, afin d'avoir l'avis d'une experte sur ce fameux sucre et les conséquences de sa surconsommation.
Bonjour Madame Boissière, je vous laisse tout d'abord vous présenter rapidement quelques phrases.
Je suis Stéphanie Boissière, je suis diététicienne en libéral sur Montauban depuis 25 ans.
Nous allons aborder directement les questions. Quels sont les différents types de sucres présents dans notre alimentation et quels sont leurs impacts respectifs sur la santé?
Alors, les sucres à proprement parler sont des glucides simples. Ils sont composés d'une à deux molécules d'ose pour parler un petit peu chimie. Donc, c'est par exemple le fructose, le glucose, le galactose, le saccharose, etc. Donc, ce sont des glucides simples à la différence des glucides complexes qu'on peut trouver dans l'amidon, les pâtes, les lentilles, etc. Donc, ces sucres, donc ce qu'on appelle sucres, ce sont des sucres simples qui sont présents dans les aliments naturels comme les fruits, le lait, le miel, le sirop d'érable, etc. Mais il peut aussi être extrait des aliments et rajouté dans d'autres aliments, comme par exemple le saccharose, qui s'appelle le sucre de table, qui est extrait de la betterave à sucre ou de la canne à sucre. Mais ce sucre, donc, qu'on extrait des aliments et qu'on rajoute à d'autres aliments, c'est aussi, par exemple, le sirop de glucose, donc qui est fabriqué depuis quelques années par des nouvelles techniques qui s'appellent des techniques de craquage, obtenues, par exemple, à partir du blé. Ces sucres, donc, ou certains sucres consommés en quantité trop importante vont être néfastes pour notre santé, car ils sont rapidement digérés et passent très rapidement dans le sang. Donc, on pense, quand on pense sucre, on pense rapidement au sucre de table, donc le sucre blanc, le sucre roux, le sucre en morceaux. Mais ces sucres sont, comme on le disait tout à l'heure, présents dans les... Donc ces sucres sont présents aussi à l'état naturel, dans les jus de fruits, les excès de sirop. S'il y a par exemple un excès de miel, donc ce sucre pourrait être néfaste. Mais ce qui est surtout néfaste ces dernières années, ce sont les sucres qui sont rajoutés dans notre alimentation qui est ultra transformée. Donc c'est ça qui pose problème. D'autant plus que ces sucres sont cachés dans les aliments. Donc il est important de lire la liste des ingrédients lorsqu'on achète un produit alimentaire. Certains noms de sucres peuvent être faciles à identifier, comme si dans la liste des ingrédients, par exemple, vous avez marqué sucre, saccharose, fructose, glucose, miel, jus de fruits. Donc on va savoir que c'est du sucre, mais d'autres noms de sucres le sont plus difficilement. Comme par exemple le sirop de glucose fructose, la maltodextrine, le dextrose, le maltose, etc. Et la liste est très longue. Donc en fait, ce sucre ou ces sucres favorisent effectivement des maladies chroniques. Donc, parmi les principales conséquences donc de néfastes donc de l'excès de sucre, on retrouve le diabète de sucre de type 2, le diabète de type 2 donc, car en fait le sucre va fatiguer le pancréas qui va produire beaucoup trop d'insuline jusqu'à épuisement. Mais on peut avoir aussi des maladies cardiovasculaires, l'obésité, d'autres maladies chroniques comme la stéatose hépatique, donc parce que le sucre, notamment le fructose, a des effets toxiques qui sont similaires à ceux de l'alcool sur le foie. Voilà. Et ensuite, on peut aussi avoir de l'arthrite, hein, donc une alimentation très riche en sucre peut endommager les protéines de notre corps et causer des inflammations des articulations. Donc. Une insuffisance rénale chronique. Voilà, donc dans les maladies principales que peut causer le sucre. Il peut avoir aussi des répercussions, le sucre, sur notre santé mentale et sur notre bien-être. Donc l'addiction au sucre peut entraîner un état anxieux, un état dépressif. Il crée des états de fatigue. Ben, déjà parce que si on consomme des produits sucrés, ces produits ne contiennent pas de vitamines. Mais aussi parce qu'il va faire varier la glycémie avec une hyperglycémie, une hypoglycémie. Cela va avoir une influence sur nos émotions, sur notre variation de l'humeur, sur une difficulté à se concentrer. Voilà.
Quelle quantité de sucre est considérée comme excessive pour la santé et quels sont les risques associés à une consommation excessive?
Alors les risques, c'est ce qu'on vient de voir, les maladies associées. Et sur les quantités, pour un adulte, c'est l'équivalent de 10 morceaux de sucre par jour. Il est recommandé plutôt 5, on divise par 2, mais au-delà de 10, c'est néfaste. Alors 10, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, on y est très vite. Donc par exemple, une Danette contient déjà 5 sucres. Une canette de Coca en contient 7.
Donc une grande quantité que l'on voit pas forcément.
C'est ça, c'est ce que je vous parlais des sucres cachés, tout à fait.
Et du coup, quels sont les effets du sucre sur le poids et la composition corporelle?
Alors, les effets du sucre sur le poids, donc si on consomme une quantité de sucre raisonnable, donc entre 0 et 10 sucres par jour pour un adulte, cela peut ne pas avoir d'influence sur le poids, mais tout va dépendre quand même de l'alimentation qu'on a à côté, parce qu'il n'y a pas que le sucre qui fait prendre du poids. Et sur la composition corporelle, ben cela peut développer un développement de la masse graisseuse, du tissu adipeux.
Comment le sucre influence-t-il notre santé mentale et notre bien-être?
Donc ça, c'est ce que je vous disais donc tout à l'heure. Sur notre santé mentale, en fait, le sucre a un impact parce qu'en fait, il peut créer des troubles anxieux, des états dépressifs. Il peut créer un état de fatigue. Donc quand on est fatigué, ben, on n'est pas très bien moralement. Il peut avoir une influence donc sur nos émotions, la variation d'humeur. D'accord. Donc sur notre bien-être aussi, c'est toutes les maladies qui vont être associées avec.
Quels sont les aliments les plus riches en sucre ajouté et comment les identifier sur les étiquettes?
Alors les aliments les plus riches en sucre ajouté, il y en a beaucoup. Ce sont tous les produits ultra transformés, donc tout ce qui est donc boissons sucrées avant tout. Il faut aussi se méfier des eaux aromatisées, je dirais pas de nom, mais par exemple des eaux aromatisées à la fraise qui peuvent contenir jusqu'à 10 sucres par litre et demi. Tout ce qui est biscuit, tout ce qui est bonbon, bien sûr, tout ce qui est glace, tout ce qui est proposé pour les enfants, style les petits oursons, les gâteaux roulés, voilà, en gros.
Quelles sont les conséquences du sucre sur la santé cardiovasculaire?
Sur la santé cardiovasculaire, donc le sucre peut augmenter l'hypertension artérielle, favoriser le cholestérol, parce que souvent en plus il est associé avec des mauvaises graisses, donc avoir tendance plutôt à faire des dépôts de cholestérol sur nos artères, et donc avoir une influence sur notre santé cardiovasculaire. Surtout s'il favorise donc le diabète et les personnes diabétiques ont des artères beaucoup plus fragiles. Donc un système cardiovasculaire à surveiller.
Ben, nous allions en venir justement avec le sucre favorise-t-il le développement de certaines maladies chroniques comme le diabète?
Oui, tout à fait. Le sucre développe des maladies chroniques, de nombreuses maladies chroniques. Donc comme le diabète de type 2, car le sucre va fatiguer le pancréas. Et comme je vous disais, donc il va produire beaucoup trop d'insuline et du coup n'en produira plus après. Donc ne pourra plus réguler les variations de glycémie dans le sang. Les maladies cardiovasculaires, donc sont aussi des maladies chroniques. L'obésité est une maladie chronique. Trop de sucre, notamment le fructose, va développer la stéatose hépatique, qui peut conduire donc à la cirrhose. Et de nombreuses maladies inflammatoires, puisque le sucre, en fait, est un aliment pro-inflammatoire. Et donc avoir une répercussion sur les articulations.
Quel conseil pouvez-vous me donner pour réduire ma consommation de sucre au quotidien, tout en ayant une alimentation variée et équilibrée?
Alors, regardez les étiquettes, déjà. Mais les étiquettes sont parfois difficiles à lire. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans une liste des ingrédients, les aliments sont classés du plus important vers le moins important. Donc, si le premier mot ou le deuxième mot qui arrive dans la liste des ingrédients, c'est sucre, ben, il vaut mieux oublier ce produit ou le consommer de manière occasionnelle. Pour réduire sa consommation de sucre, on va plutôt boire de l'eau. De l'eau qu'on peut aromatiser avec du citron, avec des tranches de citron, des tranches d'orange, des feuilles de menthe si on n'aime pas l'eau. L'eau, certaines personnes me disent, moi j'aime pas l'eau, voilà. Donc on limitera les boissons sucrées, on privilégiera plutôt les fruits que les jus de fruits, hein, parce que dans les fruits vous avez aussi des fibres qui ne vont pas avoir d'impact sur la glycémie. On va préférer du pain, par exemple, avec du chocolat à la place de manger des biscuits goûtés. On va privilégier les amandes, les noix, les noisettes, etc., plutôt que des produits transformés.
Merci beaucoup, en tout cas, Madame Boissière, pour vos réponses.
Avec plaisir. Bonne journée à tous.
Bonne journée. Au revoir. Au revoir.
Le sucre, on en trouve partout, y compris dans les produits naturels comme les fruits. Et voilà une transition sacrément bien faite pour vous annoncer l'interview qui va suivre, celle de Françoise Roch, productrice de fruits à Moissac et présidente de la Fédération nationale des producteurs de fruits, qui a pu répondre aux questions des élèves sur l'agriculture d'aujourd'hui et les évolutions auxquelles s'attendre dans les prochaines années.
Pouvez-vous nous expliquer le rôle de la Fédération nationale des producteurs de fruits?
Oui, donc déjà je me présente, Françoise Roch, je suis productrice à Moissac dans le Tarn-et-Garonne, je fais des fruits. Et la Fédération nationale des producteurs de fruits, dont je suis la présidente depuis maintenant 4 ans, c'est du syndicalisme, c'est-à-dire faire très attention pour que nos métiers puissent continuer à faire vivre nos exploitations et qu'il n'y ait pas de conséquences trop importantes sur nos métiers et mettre en relation les producteurs, les politiques pour qu'on essaye de faire avancer le monde agricole le mieux possible.
En quoi consiste votre travail de présidente ?
Mais c'est des relations, voilà, mises en relation entre le politique, la production, le terrain. On sait aujourd'hui que le monde agricole est de plus en plus petit, hein, puisque on n'est plus que 400 000 agriculteurs en France, avec des citadins qui sont de plus en plus importants. Hein, c'est les gens aujourd'hui habitent principalement en ville. Et plus à la campagne, et donc il y a une déconnexion entre ces deux mondes et les politiques sont aussi, même s'ils sont dans des départements agricoles, peuvent être aussi extrêmement déconnectés de la réalité du terrain, et donc c'est d'essayer de faire en sorte que les lois, les décrets, les choses que mettent en place les politiques n'aient pas des impacts trop négatifs sur le monde agricole, et notamment, moi, pour ma part, c'est les fruits, ce qui est malheureusement le cas ces dernières années, d'où la sortie des agriculteurs, les manifestations, etc., parce que il y a une déconnexion totale entre l'envie du politique et la réalité du monde agricole. Parce que, si vous voulez, les sujets, ils sont très vastes, hein, ça peut être les problèmes sanitaires, ça peut être des problèmes de main-d'œuvre, ça peut être des accidents climatiques. Enfin voilà, c'est quelque chose de vaste, mais qui est sur le monde du fruit.
Et du coup, pourquoi vous avez fait le choix de vous investir dans cette organisation ?
Eh bien, je l'ai fait sur le tard, parce que j'avais l'impression que, jusqu'à pas si longtemps, j'avais l'impression quand même qu'on était reconnus, entendus, qu'il y avait une connexion à peu près normale entre la société, la politique et le monde agricole. Et puis, ces dernières années, ça c'est quand même parti assez rapidement en sucette, il y a une petite dizaine d'années. Et là, je me suis dit, enfin, voilà quoi, c'est pas possible. Donc, je me suis rapprochée du syndicat pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire à ce niveau-là. Et puis, de fil en aiguille, au bout de quelques années, le président est parti et m'a dit, est-ce que tu serais intéressée? Et voilà. Et moi, j'ai trouvé ça bien parce que ben, j'aide au niveau de avec mes petits moyens, j'aide le monde du fruit et aussi le fait que moi ça me sorte aussi, je vois des choses, ça m'ouvre l'esprit, je vois des choses que j'aurais pas vu avant et cette ouverture d'esprit fait aussi du bien quoi.
Comme vous l'avez dit, au cours de ces dernières années, il y a eu plusieurs événements assez marquants. Donc, est-ce que vous pourriez en citer quelques-uns, qu'ils soient politiques ou climatiques, qui ont vraiment impacté la filière fruitière ?
Mais ce qui se passe, si vous voulez, c'est que ce qui impacte depuis quelques années la filière fruitière, hein, c'est le fait qu'on ait... c'est une évidence en Europe, en France, dans un pays libéral où les frontières sont ouvertes et où on nous demande de produire toujours moins cher parce qu'il y a des consommateurs en face qui veulent acheter pas cher, mais avec des contraintes de plus en plus lourdes. Et c'est ça qui a basculé, si vous voulez. C'est-à-dire que pendant des années, on savait qu'on était dans ce système libéral. Mais il nous semblait qu'on avait des armes pour se battre et jusqu'à il n'y a pas si longtemps ça a plutôt bien fonctionné et puis c'est une petite dizaine d'années là on a voulu tout avoir, c'est-à-dire le pas cher hein, mais le très propre, que le producteur fasse très attention à son environnement qui sauve presque la planète, ou au moins la planète France, tout en nourrissant les gens pas chers. Et du coup, on nous a mis énormément de contraintes que les producteurs n'arrivent plus à suivre économiquement parlant. C'est-à-dire que quand vous rajoutez des contraintes sur un monde économique qui est déjà un peu fragilisé, ça fait basculer des producteurs dans soit l'arrêt d'activité si c'est encore temps, soit le dépôt de bilan, et on a des situations économiques de plus en plus graves avec ces frontières qui sont en permanence ouvertes et des pays, même des pays européens, qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes que nous, que ce soit des contraintes environnementales, mais aussi des contraintes sociales, puisque... on est le pays européen à avoir, et j'en suis très heureuse, un SMIC le plus élevé au niveau européen, et c'est une très bonne chose, mais à contrario, le fait d'avoir des frontières comme ça aussi libres avec des produits, je pense à la Pologne, l'Italie, l'Espagne, où les conditions sociales n'ont strictement rien à voir, hein, en plus des conditions écologique, enfin, ça devient extrêmement dur à gérer et les politiques sont complètement déconnectées. Moi, j'en veux la fameuse phrase qu'on ressort en permanence d'Emmanuel Macron, du président, qui dit le en même temps. Alors, en même temps, on doit continuer à produire, mais en même temps, on doit produire toujours moins cher et toujours plus propre. Et ça, aujourd'hui, on est à la limite, si on parle d'humain, ça serait du burn-out ou de la rupture entre ce que l'on est capable de faire et la réalité du monde politique et économique.
Justement, quel est le problème principal, selon vous, auquel fait face la filière fruitière actuellement ?
Ah ben, c'est un mélange de plein de choses, hein. C'est le changement climatique, où nous, sur le terrain, on est dans les premiers à se rendre compte depuis des années qu'il y a ce changement-là. Donc on se prend, nous dans le Tarn-et-Garonne, en 2023, on a eu une tempête, en 2021-2022, on a gelé avec un État qui n'est pas présent lors de ces choses-là. Alors, on entendra toujours, il y a des millions qui sont mis sur la table, etc. Mais des millions, quand ça revient à une propriété, c'est quelques milliers d'euros et ça remplacera jamais un chiffre d'affaires. Donc face à ce changement climatique, vous avez aussi les problèmes sanitaires qui arrivent. Donc on a des rentrées de nouvelles bestioles ou de maladies sur nos territoires. Je pense à Drosophila suzuki, qui est la toute petite drosophile de la cerise. Je pense à la punaise diabolique, à la recrudescence du feu bactérien, etc. Avec des moyens de lutte que l'on n'a plus parce que il faut produire toujours plus propre. Et donc, on nous enlève de plus en plus de produits phytosanitaires et donc, on est complètement démunis face à l'arrivée de ces nouveaux parasites, voire à l'émergence des anciens. Donc, on perd de la production et c'est ce mélange de tout ça qui est catastrophique pour le monde agricole, quoi. Enfin, pour le monde du fruit. Se rajoutent aussi les problèmes de main-d'œuvre, hein, parce que aujourd'hui, pour trouver des saisonniers, nous, on a besoin entre 3 et 4 mois par an, voire 5 suivant les fermes, de saisonniers agricoles qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à trouver ces dernières années. Donc voilà, c'est un mixte de tout ça, quoi. C'est pas juste une seule cause, quoi.
Selon vous, comment on pourrait s'adapter au changement climatique?
On a toujours évolué en fruits. Hein. Moi, j'ai commencé ma carrière dans le département. Il y avait des pêches, des nectarines, il y avait des poires. Et on est passé sur d'autres cultures. Donc, on arrive à imaginer des choses. La seule chose, c'est toujours pareil, c'est ne pas se déconnecter de la réalité du terrain et notamment la réalité économique. Et donc, faire les choses, je dirais, même si on sent bien que le climat nous pousse, il faut quand même faire les choses avec sérénité, se poser, pas se précipiter, parce que si vous mettez de nouvelles espèces, et on le fait régulièrement, hein, de nouvelles espèces, il faut être sûr qu'elles soient bien adaptées à nos climats, parce qu'aujourd'hui, on nous dit, par exemple, ben dans la région, dans quelques années, on pourra faire des oliviers ou des amandiers. Ou la seule chose, c'est que ces deux dernières années, il y a eu du gel et que ces espèces-là n'auraient jamais tenu avec des gels de printemps. On aurait perdu les productions. Donc, il faut y aller doucement. Si le changement climatique, il était assez linéaire, ça serait moins compliqué pour nous. Le problème, c'est qu'il est par à-coups, c'est-à-dire que on peut avoir un hiver très très doux et un printemps très très gélif. On peut avoir un été très sec et un automne très pluvieux. Et c'est ces excès qui sont un peu compliqués pour nous à gérer. Donc, ce qu'on essaye de faire, c'est de mettre en place. Par exemple, je prends ma ferme, on a tout soufflé par à grêle. Les parcelles qui gèlent de façon récurrente, elles ont l'antigel. Voilà, on essaie de se protéger. On a l'irrigation sur toutes les cultures en essayant de, avec des contrôleurs, vous savez, des sondes pour savoir quand est-ce que je dois arroser la quantité, etc. Donc voilà, on essaye de s'équiper pour se protéger au mieux. Tout en essayant des nouvelles espèces. Je pense à la prune américano-japonaise qu'on n'avait pas dans la région il y a 20 ans de ça et qu'on a installé. Des copains qui mettent des amandiers, d'autres qui essayent des agrumes. Voilà, on essaye, mais il faut que ce soit avec parcimonie pour pas mettre en difficulté l'exploitation du point de vue économique.
Selon vous, comment va évoluer la filière fruitière dans les années à venir? Et est-ce que ce sera différent en fonction des territoires ou des régions?
Je pense
pense que ça sera différent, ouais, au niveau des régions. Vous avez des régions qui souffrent énormément et je pense aux Pyrénées-Orientales, par exemple, qui sont dans une très très grosse sécheresse depuis quelques années et au point où les vergers meurent de sécheresse. Donc oui, il va y avoir des basculements, mais c'est quand même difficile d'imaginer. Ça va dépendre aussi du contexte économique dans lequel on va être et les politiques qui vont être prises. Si on continue à faire des politiques à juste taper sur la tête des producteurs en leur disant il faut que vous fassiez ci, il faut que vous fassiez là, etc. et qu'il n'y a pas de résultat économique derrière, ça sera vraiment très compliqué. Il peut y avoir plusieurs scénarios. Soit la politique se met à comprendre qu'elle est en train de perdre son agriculture en général, hein, c'est pas que l'arbot, mais son agriculture en général. Parce que là, on est sur une bascule très très forte qu'on va vivre dans les 10 prochaines années. C'est le renouvellement de génération comme on n'a jamais eu en agriculture. C'est-à-dire que dans 10 ans, la moitié des producteurs partent à la retraite. Et aujourd'hui, on ne sent pas le renouvellement de génération et on ne sent pas le politique qui est là, prête à faire en sorte qu'il y ait ce renouvellement de génération qui se fasse le mieux possible. Et donc, si effectivement les politiques ne sont pas à nos côtés pour et le changement climatique et le renouvellement de génération et les problèmes sur le marché, ça va être compliqué. Après, on a toujours cet espoir dans l'agriculture parce qu'on vit sur un métier de long à très long terme, et surtout en arboriculture fruitière où on est en culture pérenne, c'est de se dire on a toujours connu des crises, on a toujours connu des moments compliqués, et on sait qu'il y a des producteurs qui vont réussir à s'adapter et à passer le cap. Et moi, c'est ce que je dis aux jeunes, le métier est magnifique, hein. Il a un avenir, il peut avoir un avenir de fou parce que c'est un métier passionnant, très technique et qu'il y aura toujours des consommateurs qui voudront manger du fruit français. Donc il y a cet avenir, mais il faut aussi qu'on ait une prise de conscience politique et pour l'instant, malheureusement, en plus avec le bazar qu'on a en ce moment sur le terrain politique, voilà, c'est compliqué. Mais il faut y croire parce que de toute façon, il va y avoir une baisse des producteurs, donc de la production, et donc ceux qui y croiront, il y a aucune raison qu'ils n'y arrivent pas, quoi.
Pour vous, le Tarn-et-Garonne, il ressemblera à quoi avec tous ces changements?
C'est difficile. À 10 ans, il n'aura pas beaucoup changé. 10-20 ans, il n'aura pas beaucoup changé. On est en train d'imaginer de nouvelles espèces. Donc, je disais, ça peut être de l'amandier, certaines prunes, certains raisins, parce que en raisin, on a beaucoup de raisins qui viennent de pays très chauds comme le sud de l'Espagne ou la Californie ou l'Afrique du Sud. Donc, on peut avoir des de la génétique qui peuvent être vraiment intéressantes pour le département. Mais c'est assez compliqué de se projeter comme ça parce que certains très pessimistes disent il y aura plus de pommes dans le Tarn-et-Garonne, sachant que c'est la culture principale. Mais même en pommes, on peut évoluer vers des variétés plus résilientes. Donc, il y aura sûrement des changements de variétés. Mais de vous dire comment le pire qui puisse nous arriver, c'est la perte trop importante de producteurs et on devient la banlieue toulousaine. Et ça, c'est le pire qui puisse arriver au Tarn-et-Garonne. Et le mieux, c'est voilà un département où on est écouté par nos politiques locaux. Je pense au président de département. Je pense
à la région qui doit bosser aussi avec nous pour mettre tous les moyens pour que les producteurs puissent faire un virage le moins difficile possible et qu'on perde le moins de moi ma bataille c'est de perdre le moins de producteurs possible quoi.
Bah, merci beaucoup pour toutes vos réponses. On a fini avec nos questions. Merci.
Merci,
c'était
beaucoup.
Très intéressant.
Merci à vous. Et puis, bonne suite dans vos études.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci.
Pour pouvoir cultiver la terre, il faut des outils. Ceux-ci ont énormément changé entre les fourches en bois et les chevaux d'antan et les tracteurs ultra perfectionnés d'aujourd'hui. Afin d'en apprendre plus sur l'évolution des pratiques agricoles, les élèves ont demandé l'avis de Jean-Michel Bento-Souza, enseignant en agroéquipement au lycée Capou de Montauban. On découvre ça tout de suite.
Bonjour, nous sommes trois étudiants de BTS qui, dans le cadre d'une épreuve d'éducation socioculturelle, avons choisi de sensibiliser des élèves de primaire à propos de l'évolution du matériel agricole à travers le temps. Pour cela, nous avons l'honneur d'accueillir notre personne ressource, Monsieur Bento-Souza. Bonjour, Monsieur Bento-Souza.
Bonjour.
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots ?
Je m'appelle Jean-Michel Bento-Souza, je suis professeur, enfin enseignant au lycée agricole de Montauban, j'enseigne l'agroéquipement. J'ai une formation agricole, j'ai travaillé pendant 25 ans dans l'agrodistribution, spécialisé en arboriculture fruitière et en protection des cultures. Et j'ai également une autre activité, puisque j'ai une activité conseil stratégique donc pour les agriculteurs également. Et voilà.
Quelle évolution majeure avez-vous pu constater au sein du monde agricole et laquelle vous a le plus marqué et pourquoi ?
L'évolution, moi, ce qui me concerne, ce que je trouve vraiment marquant, donc d'évolution technologique, pour répondre aux enjeux de l'agriculture d'aujourd'hui, qui ne sont pas les enjeux d'hier, puisque si on fait un petit historique de l'agriculture et le parallèle avec l'évolution de matériel, on s'aperçoit que le matériel a évolué donc avec la technologie, avec l'apparition du moteur thermique en particulier, qui répondait à cette époque-là à une priorité, c'était de nourrir le maximum de gens. Donc jusque dans les années 2000 où les besoins ont changé. Il y a eu une prise de conscience aussi générale sur les travers que tout ça a pu induire, notamment au niveau de l'environnement. Donc à partir des années 2000, c'est plutôt la technologie actuelle qui a pris le dessus et dans un objectif de précision. Beaucoup plus, une meilleure gestion des intrants, une meilleure gestion de l'eau, une meilleure gestion également de la pollution et de l'impact notamment du matériel et thermique, en particulier entre autres. Hein. Donc voilà, c'est ce qui est aujourd'hui. Donc la problématique reste la même, puisque l'agriculture aura toujours la vocation de nourrir la population, mais en prenant en considération d'autres facteurs qui n'étaient pas forcément pris à l'époque et qui n'étaient pas une priorité à l'époque.
Que pensez-vous de l'évolution des outils agricoles sur le plan économique et environnemental ?
Alors, d'un point de vue économique, alors en fait, moi, ce que je trouve intéressant dans l'évolution, c'est qu'il y a plusieurs enjeux. Il y a d'abord permettre aux agriculteurs de gagner en productivité, en performance. Donc, c'est-à-dire améliorer les rendements, c'est-à-dire avoir plus de quantité, mais être beaucoup plus efficient en termes de moyens, c'est-à-dire être beaucoup plus rapide. Et donc, il y a, à mon avis, ce qui est intéressant, c'est l'enjeu économique. Et effectivement, donc on peut parler de l'augmentation du matériel, mais un matériel, c'est un moyen. Donc il faut toujours regarder ce que ça coûte, mais surtout ce que ça peut vous rapporter en termes d'économie. Et en termes d'environnement, je pense qu'aujourd'hui, tout est fait pour, justement, j'évoquais tout à l'heure l'agriculture de précision, pour mieux gérer les intrants. On a du matériel de moins en moins polluant. On a aussi une évolution récente, là je viens de lire un article où il y a des tracteurs, les premiers tracteurs 130 chevaux électriques qui font leur apparition. Donc tout est fait aujourd'hui pour effectivement prendre en considération cette problématique environnementale.
Quel a été le coût de ces évolutions et selon vous, est-ce que cela a été rentable ?
Oui, moi je pense, oui, parce que si on prend, allez, depuis une moissonneuse il y a 35 ans, moissonner beaucoup moins en quantité qu'aujourd'hui, donc en termes de productivité, de gain de temps, c'est quand même important. L'autre point, à mon avis, qui me semble important, c'est la robotisation. La robotisation, donc, effectivement, coûte cher, mais va permettre aussi de développer des méthodes alternatives, notamment au désherbant, puisque aujourd'hui, le désherbage manuel est compliqué, puisque ça reste quand même une méthode alternative. Pourquoi ? Parce qu'il faut de la main d'œuvre et ça coûte quand même assez cher. Et déjà, faut-il en trouver ? Et alors que la robotisation permet, notamment en maraîchage ou dans d'autres cultures, mais par exemple en maraîchage, de désherber uniquement mécaniquement, enfin avec les robots. Et je pense qu'en termes, oui, effectivement, de rentabilité, ça peut en avoir un intérêt particulier. De toute façon, encore une fois. Je répète, un matériel agricole, c'est un moyen d'atteindre des objectifs économiques en particulier, pas que, mais économiques et en l'occurrence environnementaux.
Quelle tendance avez-vous vu émerger personnellement, que ce soit administrativement ou au niveau de la réglementation ou autre chose ?
Bah, la réglementation, bon, moi, je vais m'appuyer sur ce que je connais, c'est-à-dire mon parcours. Comme je disais tout à l'heure, je suis spécialisé en protection des cultures et je note quand même qu'en termes de réglementation et de moyens, il y a beaucoup eu d'efforts faits. Et mise en œuvre, ben justement pour diminuer l'impact donc de la protection chimique, enfin la protection des cultures en général, et que en termes de réglementation, mais aussi en termes de moyens et d'innovation, ben je pense qu'aujourd'hui on peut avec certitude dire que la sécurité alimentaire a été améliorée par rapport aux 50 dernières années, quoi.
On parlait de robotisation. Pensez-vous que l'IA et la robotisation auront un impact sur le secteur agricole et pourquoi ?
Oui, la robotisation, oui. Alors l'IA, bon, c'est un autre sujet et j'ai pas suffisamment... c'est pas de ma génération, j'ai pas suffisamment... Hormis ChatGPT, j'ai pas suffisamment de recul là-dessus. Par contre, la robotisation, oui, en l'occurrence, oui, forcément. La robotisation, comme je disais tout à l'heure, moi je pense qu'elle va avoir un rôle clé dans les méthodes alternatives, en particulier liées notamment, alors, à méthodes alternatives, donc c'est lié à la protection des cultures, mais aussi dans la précision. Aujourd'hui, on a des robots, enfin, ou des alors c'est pas forcément mais une assistance robotique qui peut permettre d'atteindre une certaine précision dans les semis ou dans les récoltes qui à mon avis aura un rôle clé dans la performance économique, notamment dans la gestion de l'efficience, enfin dans la prise en charge de l'efficience, c'est-à-dire la gestion des moyens pour réaliser les objectifs des exploitants agricoles qui au-delà de nous fournir de la nourriture, font leur métier et doivent vivre de leur métier. Est-ce que j'ai répondu à ta question ?
Parfaitement, merci.
Comment peut-on trouver le bon équilibre entre les méthodes traditionnelles et les nouvelles technologies ?
Compte tenu, moi je pense qu'il faut prendre en considération. Alors tout n'est pas à jeter de ce qu'on en a eu fait. Encore une fois, on a tendance à toujours penser que la dernière technologie ou la dernière méthode est la meilleure et que ce qu'on a fait avant finalement doit être réel. Moi je pense pas. Je pense que il faut prendre. Déjà il y a une période de transition. On est dans une période de transition et ça veut dire que on parle par exemple, je parle souvent du travail du sol. On parle de plus en plus de ne pas labourer. Donc ok, pourquoi pas Mais on peut pas passer de 50 ou 60 ou 100 ans de labour ou 80 ans de labour à une situation zéro labour par exemple. Donc je pense qu'il faut faire vivre les deux méthodes. Nous sommes dans une phase de transition. Qu'on aille vers de la simplification du travail, je suis plutôt d'accord. Mais nous sommes dans une phase de transition. Et je pense qu'il faut l'intelligence qu'il faut avoir, c'est faire vivre les deux systèmes, avoir plutôt une analyse globale de façon à trouver le bon compromis, de façon à ne pas oublier que l'objectif quand même de l'agriculture, c'est d'arriver à avoir des récoltes pour nous nourrir. Voilà.
Tout simplement, que pensez-vous de l'agriculture biologique? Quels en sont par exemple les avantages et les inconvénients selon vous?
Alors, l'agriculture biologique, les avantages, ben effectivement, et ça permet donc d'utiliser. Alors, il faut pas confondre agriculture biologique et zéro traitement. Il faut savoir que l'agriculture biologique utilise des produits de protection de culture ou des engrais qui sont compatibles avec l'environnement, mais ça veut pas dire qu'on ne traite pas. Donc, la première chose, c'est, je pense qu'il faut remettre les choses en place, c'est celle-là. L'agriculture biologique, moi, j'ai pas d'a priori négatif. Je pense que c'est pourquoi pas. Sauf que effectivement, nous sommes quand même dans un contexte climatique qui évolue, avec des températures qui augmentent en l'occurrence, un climat qui change, et on a une pression parasitaire qui évolue aussi, et qui font que moi j'ai eu côtoyé des agriculteurs qui se sont convertis d'agriculture bio en conventionnelle parce qu'ils n'arrivaient plus à faire face aux attaques parasitaires. Voilà. Et donc il faut savoir quand même que concrètement l'agriculture biologique donc a un intérêt si elle est rémunérée à sa juste valeur. Et il y a quand même une problématique aujourd'hui, c'est de prix d'accès des produits biologiques qui pourraient permettre de compenser ces aléas de culture. Alors ça c'est voilà, il y a des avantages, des inconvénients, mais encore une fois je sensibilise encore, j'avais une discussion avec un professeur, faut pas parler d'agriculture biologique en pensant qu'on ne traite pas, voilà. Il y a des produits qui sont autorisés, ou des techniques qui sont autorisées, méthodes alternatives, ou pas d'ailleurs, mais qui sont autorisées en agriculture biologique, mais le zéro pesticide, à ma connaissance, n'existe pas.
Pensez-vous que l'agriculture peut être durable tout en s'adaptant aux normes qui se multiplient?
Oui, je pense que, voilà, encore une fois, on est dans une période de transition, donc des fois, ça peut paraître compliqué, mais je pense que c'est l'occasion aussi d'avoir une approche globale et puis de réfléchir différemment. Comme je disais tout à l'heure, on a passé 50 ans à produire pour nourrir. Aujourd'hui, ok, on a besoin toujours de se nourrir. Dans d'autres mesures, aussi, les tendances alimentaires ont changé, sachant qu'après-guerre, c'était quand même une priorité. Aujourd'hui, c'est toujours important, peut-être moins prioritaire. Quoi qu'il en soit, les contraintes aussi ont changé, et je pense que c'est aussi une occasion de réfléchir, pourquoi pas, à de nouvelles façons de produire, une approche différente, qui combine, pourquoi pas, qui s'appuie aussi sur ce que l'on sait, de par le passé, mais aussi qui combine des nouvelles technologies et surtout des nouvelles techniques aussi. Pourquoi pas utiliser dans une culture conventionnelle une approche que l'on utilise en agriculture biologique, donc je parle d'enherbement, je peux parler de produits alternatifs, tout un tas, et je pense que du moins dans cette période de transition, il est intéressant de se poser la question et de savoir comment est-ce qu'on peut faire vivre les méthodes anciennes dans un nouveau contexte ou en s'appuyant de ces méthodes-là pour évoluer sur quelque chose de nouveau et qui réponde aux objectifs d'aujourd'hui.
D'après vous, est-ce que l'agriculture française pourra survivre aux différentes crises conjoncturelles et structurelles?
Moi, je suis d'un fond assez animé par de l'optimisme. Donc, j'aurais tendance à te dire oui. L'agriculture, il faut savoir aussi que c'est une profession résiliente et qui a toujours su faire face. Et je pense que oui. Je pense que c'est dans un intérêt collectif que l'agriculture puisse s'adapter aux contraintes de demain, parce qu'encore une fois, on peut pas se passer d'agriculture. Enfin, je pense l'indépendance alimentaire, on l'a bien vu ces derniers temps, est quand même une priorité, doit rester une priorité. On doit être capable au moins de s'autosuffire en période compliquée, notamment dans un contexte sécuritaire et européen instable. Et voilà. Et oui, j'aurais tendance à croire et à vouloir croire que c'est possible. Alors, ça se fera pas tout seul, mais voilà. Je pense que s'il faut que tout le monde prenne conscience aussi. Je pense que la clé, c'est que on prenne conscience que on a besoin d'une agriculture de proximité et performante.
Notre interview est terminée. Merci de nous avoir écoutés et un grand merci à Monsieur Bento Souza de nous avoir accordé son temps et transmis son savoir. Nous espérons que vous avez appris quelque chose et apprécié notre intervention.
Merci.
Merci. Avec plaisir.
Et voilà, nous en sommes déjà à la dernière rubrique de cette émission. Finissons donc en beauté avec un petit quiz spécialement préparé par les élèves, pour les élèves, sur le thème des plantes en tout genre. Serez-vous aussi cultivé que les gagnants de cette épreuve? Écoutez et vous le saurez.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Game Plant, votre quiz radiophonique où la nature est à l'honneur.
Aujourd'hui, nous mettons vos connaissances botaniques à l'épreuve, à travers des énigmes. Nous accueillons deux équipes, 8 participants, 6 questions et un seul trophée, celui du meilleur botaniste.
Équipe Photosynthèse, présentez.
Alors nous sommes l'équipe Photosynthèse, notre équipe se compose de 4 membres, Lucille, Léa, Théo et Julien.
Équipe Chlorophylle, présentez-vous.
Bonjour à tous, nous sommes l'équipe Chlorophylle, nous sommes composés de Bilal, Agathe, Justine et Alassane.
Les règles sont simples, une question, une équipe, répondre correctement fait gagner un point. Attention, si vous donnez une mauvaise réponse, l'équipe adverse peut voler le point, si elle connaît la réponse évidemment. L'équipe avec le plus de points remporte la partie. Prêt ? C'est parti ! Première question pour l'équipe Chlorophylle. Je suis rouge ou parfois jaune. Je suis souvent confondu avec un légume, mais je suis un fruit. On me trouve dans les salades, des thés. Qui suis-je ?
Les tomates.
Bonne réponse.
Prochaine question pour les photosynthèses. Je suis rond ou ovale. Ma chair orange est sucrée et en été, je suis la star des pique-niques. Qui suis-je ?
Le melon.
Oui.
Prochaine question pour l'équipe Chlorophylle. Je suis le symbole d'amour et de passion, mais mes tiges peuvent être piquantes. Qui suis-je ?
Les roses.
Bonne réponse.
Prochaine question pour l'équipe photosynthèse. Je suis une fleur comestible. Mes pétales colorés embellissent les plants et je grimpe parfois sur les murs. Qui suis-je ?
La capucine.
Bonne réponse.
L'équipe chlorophylle, prêt ? Lent et vert, je suis croquant et rafraîchissant. Parfois pour une salade d'été, qui suis-je ?
Le concombre ?
Bonne réponse.
Prochaine question pour les photosynthèses. Ma chair orangée est douce et sucrée. On me déguste dans les desserts ou en jus exotique. Qui suis-je ? Les photosynthèses, il me faut une réponse.
Chlorophylle, avez-vous la réponse ?
La mangue ?
Bonne réponse.
Oui.
Un petit récapitulatif des points. Chlorophylle, 4 points. Photosynthèse, 2 points. On continue avec une question pour l'équipe chlorophylle. Je suis croquante et sucrée. On me trouve dans les vergers et je suis tombée sur la tête de Newton. Qui suis-je ?
Une pomme.
Bonne réponse.
Prochaine question pour l'équipe photosynthèse. Mes feuilles vertes parfument les thés et les cocktails. Et je suis connu pour ma fraîcheur. Qui suis-je ?
La menthe.
Oui, bonne réponse.
Équipe chlorophylle. Je suis un aromatique. Parfait pour parfumer les grillades et les ragoûts. Qui suis-je ?
Le romarin.
Bonne réponse.
Prochaine question pour l'équipe photosynthèse. Je suis une graine qui fait fondre les gourmands car je suis l'ingrédient principal du chocolat. Qui suis-je ?
Le cacao.
Oui, bonne réponse.
Équipe chlorophylle. Je suis un fruit rond, souvent juteux. Ma couleur et mon nom sont ingénieux. Qui suis-je ?
L'orange.
Bonne réponse.
Dernière question de ce quiz pour les photosynthèses. Je suis un fruit rouge au goût sucré. Mon habit est parsemé de petits grains dorés. On me cueille souvent au printemps et j'aime des petits et des grands.
Qui suis-je ?
La fraise.
Bonne réponse.
Et c'est fini pour aujourd'hui. L'équipe ayant le plus de points est... l'équipe Chlorophylle. Avec un score de 7 à 5. Bravo, vous êtes les champions du quiz Game Plant. Un petit mot de chaque équipe en commençant avec l'équipe Photosynthèse.
C'était un plaisir de participer à ce quiz en compagnie de l'équipe des Chlorophylles. Même si nous avons perdu, nous avons beaucoup appris ce jour-là.
Équipe Chlorophylle, un petit mot.
Merci beaucoup pour l'invitation au jeu. Nous avons beaucoup appris aujourd'hui et merci à toutes et toutes celles qui nous ont soutenus et qui ont toujours cru en nous.
Merci à tous nos participants et merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis. À la semaine prochaine pour un nouveau thème et encore plus d'énigmes.
Et voilà, c'était l'émission préparée par les élèves de BTS du cours d'éducation socioculturelle du lycée agricole Capou de Montauban. Radio Asso tient à remercier les élèves pour leur implication, Madame Caroline Bascoul, enseignante d'éducation socioculturelle, le lycée Capou de Montauban et tous les intervenants qui ont bien voulu se prêter au jeu des interviews. On repasse maintenant sur la programmation habituelle de Radio Asso et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.